On imagine souvent le dindon comme un animal robuste, presque un colosse de la basse-cour. Pourtant, la source qu'on explore aujourd'hui le décrit d'une manière assez surprenante. Un colosse aux pieds d'argile. Ça souligne une fragilité qu'on ne soupçonne pas, surtout quand il est jeune. Alors aujourd'hui, on se penche sur un guide vraiment fascinant pour les éleveurs amateurs. Ça s'appelle « Santé des dindons, les secrets d'un élevage réussi » et c'est tiré du blog Poulailler Bio. Notre mission, c'est de comprendre les clés d'un élevage sain, mais avec une approche très axée sur le préventif et le naturel.
C'est tout à fait ça. Et le guide part d'un postulat qui est presque radical. Il dit que 90% de la réussite, ça dépend pas des médicaments, mais de deux choses, l'observation et la prévention. Du coup, notre discussion va suivre cette logique. D'abord, on va voir comment bâtir ce que l'auteur nomme le bouclier sanitaire, toutes les mesures à prendre en amont. Ensuite, on verra comment l'environnement et l'alimentation, ça forge une immunité en béton. Et pour finir, on identifiera les maladies les plus courantes, histoire de pouvoir les anticiper et pas seulement les subir.
Parfait. Alors on commence par le commencement. Le guide insiste sur une idée qui fait un peu peur au premier abord. Il dit que quand un dindon a l'air malade, il est souvent déjà trop tard. La proactivité est donc vitale. Ça veut dire que tout se joue bien avant que l'animal n'arrive dans son nouvel enclos.
Exactement. La toute première étape, c'est l'achat. Et là-dessus, le guide est très très direct. Il faut savoir d'où vient l'animal. Donc privilégier les éleveurs locaux qui ont une bonne réputation. Et surtout, il met en garde contre les marchés aux oiseaux.
Ah oui, en effet. Pourquoi ça? On a l'image d'un lieu d'échange un peu authentique.
C'est un vrai piège, en fait. Pour un débutant, c'est le pire endroit. Le guide explique que ces marchés, c'est une source de stress incroyable pour les animaux. Le transport, le bruit, le monde. Et puis, c'est un carrefour de contamination. Des animaux de partout, dont on ne connaît pas l'état sanitaire, qui sont mis côte à côte. C'est la meilleure façon de ramener une maladie chez soi. Après, il y a l'inspection visuelle, bien sûr. Un animal prostré, les yeux qui coulent, qui boitent, faut jamais ignorer ces signaux.
D'accord, donc on a trouvé un bon éleveur, on a bien regardé l'animal, il a l'air en pleine forme. On peut le mettre avec les autres?
Ah, surtout pas. C'est là qu'intervient ce que le guide appelle la règle d'or. Et là, il n'y a aucune exception.
Et c'est quoi cette fameuse règle d'or?
La quarantaine, c'est systématique. Tout nouvel animal doit être isolé, mais complètement isolé pendant 3-4 semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste une attente, c'est une phase active. D'un côté, ça laisse le temps aux maladies qui couvent, celles qui sont invisibles à l'achat, de se déclarer, loin des autres. Et de l'autre, c'est le moment idéal pour le traiter. Un petit vermifuge, par exemple. On le nettoie avant de l'introduire. C'est la base de la biosécurité, même pour un tout petit élevage.
C'est très clair. Le périmètre de sécurité est bien défini. Une fois que l'animal est déclaré sain, on passe à son lieu de vie. Et là, on attaque le deuxième grand chapitre, comment l'environnement et l'alimentation peuvent construire cette immunité en béton. Le guide dit que le dindon est un grand explorateur, il lui faut de l'espace.
Oui, l'espace est essentiel pour son bien-être et aussi pour diluer les parasites au sol. Mais il y a un ennemi encore plus grand que le manque d'espace, un ennemi silencieux.
L'humidité. J'avoue que l'insistance du guide sur ce point m'a surprise.
On en revient à notre image du colosse aux pieds d'argile. Un dindon, ça a l'air indestructible. Mais ses poumons, ses voies respiratoires, c'est d'une fragilité. Une litière humide, c'est une double menace. D'abord, ça dégage de l'ammoniac. Et ce gaz, ça irrite tout le système respiratoire et ça ouvre la porte aux infections. Et ensuite, un sol humide, c'est le paradis pour les coccidies et tous les parasites.
C'est fou de se dire qu'un animal aussi imposant peut être terrassé par une litière mal gérée. J'ai noté que le guide donne des astuces, comme mettre de la terre de diatomée ou de la cendre de bois sous la paille.
Tout à fait. Ce sont d'excellentes astuces pour pomper l'humidité. Et cette gestion du sol est liée à une autre technique clé, la rotation des parcours. Le but, c'est pas juste de leur donner de l'herbe fraîche. L'objectif principal, c'est de casser le cycle de vie des parasites. Les œufs des vers, par exemple, ils restent dans le sol. En déplaçant les animaux, on les éloigne d'un sol qui devient de plus en plus contaminé. C'est presque un vermifuge mécanique.
D'accord. On protège l'animal de l'extérieur. J'imagine que la protection vient aussi de l'intérieur, par l'assiette.
Absolument. C'est le deuxième pilier. Et l'alimentation de dindon, c'est bien plus pointu que celle d'une poule. Le point le plus critique, c'est les protéines au démarrage. Le dindonneau, il a des besoins énormes. 26 à 28%.
C'est un chiffre colossal. Pour un amateur, ça veut dire qu'un mélange de blé et de maïs, c'est pas du tout adapté.
C'est l'erreur classique. Démarrer des dindonneaux avec un aliment pour poussins, par exemple, ça mène droit au retard de croissance et au piquage. c'est quand ils s'arrachent les plumes par carence. L'autre point qui semble évident mais qui est crucial, c'est l'eau. Propre, fraîche, changée tous les jours. Et le guide conseille des abreuvoirs surélevés.
Ah oui, pourquoi ?
Pour éviter qu'ils ne la salissent avec la litière en grattant le sol. C'est tout bête, mais ça évite de contaminer l'eau de boisson.
Et en plus de cette alimentation de base, l'article parle de compléments.
Oui, parce que même un bon aliment ne suffit pas toujours, surtout en période de stress, comme les changements de saison. On parle de cure de vitamines, mais aussi de zinc et de manganèse qui sont cruciaux pour les pattes. C'est le vrai point faible de ces oiseaux très lourds. Mais il y a un autre facteur qui n'est pas dans la nourriture. C'est le stress. Le dindon est un animal très émotif.
Vous voulez dire qu'un simple coup de stress peut le rendre malade ?
Instantanément. Un chien qui aboie trop près, une porte qui claque. Ça peut faire chuter ses défenses immunitaires de manière spectaculaire. Et là, la porte est grande ouverte pour les maladies qu'on dit opportunistes. Celles qui sont toujours là, mais qui ne peuvent attaquer qu'un organisme affaibli. Donc gérer le calme autour des dindons, ça fait partie de la prévention.
Alors là, on a bâti les défenses, on a fortifié l'organisme, maintenant il faut apprendre à identifier les menaces. Et le guide commence par dire que le diagnostic, c'est très difficile.
Oui, parce que beaucoup de maladies commencent pareil. L'animal s'isole, il fait la boule, plume ébouriffée, il mange plus. C'est un peu un mode économie d'énergie. L'auteur insiste donc sur deux choses à observer de près, l'aspect des fientes et la respiration.
Et parmi ces maladies, il y en a une que l'article nomme le fléau du dindon, l'histomonose ou la maladie de la tête noire.
C'est l'ennemi public numéro un. Et ce qui est très instructif, c'est comment elle se transmet. Elle est causée par un parasite microscopique, un protozoaire. Mais ce parasite, il a un véhicule, un petit ver intestinal très courant chez les poules.
Attendez, ça c'est peut-être l'info la plus importante pour quelqu'un qui débute. On imagine toujours la basse-cour comme un joyeux mélange, mais là vous dites que c'est une erreur qui peut être mortelle pour le dindon.
C'est exactement ça. C'est le piège classique. La poule, c'est une sorte de cheval de Troie. Elle héberge le parasite, le propage via ses fientes, mais le plus souvent, elle n'est pas malade. C'est une porte saine. Le dindon, lui, est hypersensible et la maladie est souvent foudroyante. Le symptôme qui ne trompe pas, ce sont des fientes couleur jaune soufre. Donc la prévention, elle est radicale. Ne jamais, au grand jamais, élever des dindons et des poules ensemble.
C'est une information capitale qui va à l'encontre de toutes les images qu'on peut avoir. Le guide parle aussi de la coccidieuse.
Oui, un autre parasite intestinal très courant. Il provoque des diarrhées, parfois avec du sang. Et là encore, la prévention, c'est une litière parfaitement sèche. L'article mentionne aussi le vinaigre de cidre dans l'eau en prévention pour acidifier le milieu intestinal. Il y a aussi la syngamos, le ver rouge. Le symptôme est très visuel.
C'est-à-dire ?
Le ver se loge dans la trachée. Du coup, pour respirer, le dindon tend le cou et ouvre grand le bec, comme s'il bâillait tout le temps pour chercher de l'air. C'est très angoissant à voir. Et puis bon, il y a les infections respiratoires classiques, type coryza. Prévention, pas de courant d'air, mais une bonne ventilation.
Il y a un autre passage qui m'a vraiment marqué. Ce n'est pas une maladie, mais une phase que le guide décrit comme hyper dangereuse, la crise du rouge.
C'est un moment absolument critique, oui. Vers 2 ou 3 mois. Ce n'est pas une maladie, c'est une transition physiologique. C'est l'apparition des attributs rouges sur la tête et le cou. Ce processus demande une énergie folle à l'animal. Il est épuisé, son système immunitaire est à plat. Et c'est à ce moment précis qu'il devient vulnérable à tout, surtout à l'humidité et à l'histomonose.
Le guide cite un dicton d'éleveur qui fait froid dans le dos.
Oui, il est brutal, mais il dit tout. Un dindonneau qui prend une goutte d'eau sur le dos, pendant la crise du rouge, est un dindonneau mort.
C'est une image d'une violence. Ça veut dire qu'à ce moment-là, une simple averse, un oubli, et c'est fini. On est presque dans de la micro-gestion.
C'est ça, la vigilance doit être totale pendant 2 à 3 semaines. Les garder à l'abri et soutenir leur organisme. Le guide recommande des fortifiants traditionnels, comme de l'ortie hachée avec de l'œuf dur, une bombe de protéines, ou un peu d'huile de foie de morue. C'est le sommet de l'attention que prône le guide.
Et cette attention, cette volonté de bien faire, ça nous amène à la dernière partie, qui est presque philosophique. Elle pose une question éthique, les limites de cette approche tout naturelle. Est-ce qu'on doit refuser tout autre soin, même si l'animal souffre ?
La réponse de l'auteur est très claire, et je la trouve très courageuse. Le message est pragmatique, responsable. Il dit que l'intention de soigner au naturel, c'est noble, mais ça ne doit jamais passer avant le devoir de base de l'éleveur. Refuser la souffrance animale.
Il donne une sorte de règle à suivre.
Oui, une règle simple. Si un traitement naturel ne montre aucune amélioration après 48 heures et que l'animal va visiblement plus mal, il faut appeler un vétérinaire. L'article dit qu'utiliser un antibiotique pour sauver une vie, ce n'est pas un échec de l'approche bio, c'est un acte de responsabilité. Et qu'à l'inverse, laisser un animal dépérir au nom d'un principe, c'est une forme de maltraitance, même involontaire. C'est une vision très mature, je trouve.
En résumé, si on devait tout synthétiser, l'élevage de ce colosse au pied d'argile repose moins sur des remèdes miracles que sur une somme d'attention. Une biosécurité rigoureuse dès l'achat, un environnement sec, une alimentation de précision et surtout une observation de tous les instants pour déceler le moindre problème.
C'est une excellente synthèse. Et cette plongée dans les détails de la santé du dindon, je trouve ça nous amène à une réflexion un peu plus large. La source, c'est un guide technique très concret. Mais cette attention extrême portée à la fragilité d'une seule espèce, est-ce que ça ne nous questionne pas sur notre rapport au vivant en général? La question qu'on pourrait se poser, c'est comment cette connaissance intime des besoins d'un animal peut transformer notre perception de tout un petit écosystème? De la vie qu'on ne voit pas dans le sol, jusqu'aux interactions parfois fatales entre les différentes espèces de la basse-cour.